Robert Votin, pour le rapport des sciences du climat et de l'environnement de la Sculpture Simon Laplace. Tu as le micro sur place, comme tu peux faire.
Ici, on a sur place, c'est grave bien.
Bon, bonjour. Je vais essayer de trouver d'abord ma présentation. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Alors, il faut.
Tu passes au micro.
Oui, mais comment on fait que
ce soit vert?
Ah, d'accord. D'accord. C'est vert.
C'est vers le haut.
Oui, voilà, ça a l'air de marcher maintenant. Donc, alors il faut peut-être que je passe en grand écran. C'est ça. Contrôle L. Voilà. Alors, donc Sylvie et Claude m'ont demandé de faire un exposé sur la question des événements extrêmes et de l'incertitude. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Moi, je voulais commencer par finalement ce qui vient d'être rappelé ici, c'est que lorsque on fait des prévisions météo, hein, tous les jours, on peut faire des prévisions probabilistes à 10 jours, à 5 jours, etc. Et on peut faire donc des estimations de l'incertitude, des prévisions d'incertitude, et on peut les vérifier. Dans le domaine du climat, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'on ne peut pas vérifier. Donc là, on est complètement dans la partie deuxième approche de ce qui a été présenté au niveau mathématique, c'est-à-dire qu'on doit se baser sur un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de connaissances qui nous amènent à évaluer, enfin qui nous amènent à produire des estimations de l'incertitude. Alors, dans le domaine des moyennes, etc., c'est relativement... on peut encore faire des choses relativement simples. Dès qu'on aborde la question des extrêmes, on est face à des phénomènes qui sont par définition rares et donc extrêmement difficiles à évaluer. Alors, bon, peut-être pour commencer, on va rappeler les choses qui ont en partie déjà été dites, mais... Les différentes sources d'incertitude. Donc j'utilise des mots légèrement différents, mais bon, qui ont aussi été utilisés dans la littérature. Donc ça serait d'ailleurs pas mal qu'il y ait une sorte d'unification des termes. Donc on a bien sûr la variabilité climatique interne, la variabilité liée aux scénarios de développement, donc qui sont les sources de forçage. La variabilité, alors. En fait, la variabilité qu'on appelle structurelle, qui est en partie résolue par le fait qu'on peut utiliser un certain ensemble de modèles aujourd'hui disponibles, mais ces modèles contiennent eux-mêmes des inconnaissances face au système qu'on cherche à modéliser, et si ça se trouve, négligent certains phénomènes extrêmement importants, tous. Donc on a à la fois, on a l'habitude de parler d'incertitudes liées au modèle, incertitudes de modélisation, et d'incertitudes plus structurelles, qui est la limite des connaissances, qui donc n'est pas représentée par l'éventail des différents modèles qui sont aujourd'hui disponibles dans les labos. Donc ce schéma représente pour c'est la température globale moyenne, je pense que c'est en moyenne décennale, c'est assez schématique, l'évolution donc de l'inconnaissance, enfin l'incertitude de ces moyennes, avec un rapport qui est entre la fraction d'incertitude comme simulée par les différents modèles et scénarios par rapport au taux de changement. Donc ça fait une courbe un petit peu en U, puisque au début les changements sont faibles et l'incertitude demeure quand même assez grande à relativement courte échelle, et donc baisse ensuite, puis à la fin réaugmente l'incertitude totale parce que les scénarios essentiellement divergent. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que la source d'incertitude varie aussi dans le temps. puisque au début, principalement ce qui va concerner la décennie qui vient, les années qui viennent, c'est l'incertitude liée à la variabilité interne, et ensuite prend le relais l'incertitude liée aux différents scénarios de développement. Mais dans tous les cas, l'incertitude modèle, donc l'incertitude structurelle, est tout à fait dominante. Voilà, alors dans le cas des extrêmes, il se pose un problème additionnel, qui est que on a une sensibilité, je dirais, supplémentaire de l'incertitude lorsqu'on cherche à probabiliser des extrêmes dans le futur, par exemple, par rapport aux changements eux-mêmes. Là, je montre, c'est extrêmement simple, mais si on décale une gaussienne et qu'on regarde ce qui se passe au bout, on voit bien que lorsqu'on va effectuer un changement de quelques pourcentages de sigma ou de 1 sigma, on va occasionner des grandes modifications dans les fréquences des extrêmes, ce qui rend la projection de ces fréquences d'extrêmes sensible également aux erreurs, aux incertitudes qui sont inhérentes à ce type de projection. Donc juste pour rappeler un petit peu ce qui correspond un petit peu à aujourd'hui la situation en 30-40 ans, en gros les températures globales se sont décalées d'à peu près 1 sigma, et cela conduit à environ 2. Cela conduit des extrêmes de type 3 sigma, c'est-à-dire des phénomènes qui se produisent extrêmement rarement, à passer à 2 sigma, et donc passer de 0,13% de fréquence du temps à 2,3% de fréquence du temps. Donc on a des changements absolument énormes dans la fréquence de ce type d'événement. Ça, c'est un calcul fait avec une gaussienne, c'est tout simple, hein. Alors, en réalité, il y a eu une étude qui a été faite notamment par Hansen et qui montre que si on regarde les phénomènes les plus extrêmes, on va regarder que les courbes de droite ici. Je pense que j'ai un pointeur. Voilà. Donc, ce qu'il a regardé, c'est l'évolution entre 1950 et 2010 de la fréquence spatio-temporelle des saisons extrêmes. Donc, chaque un point. C'est un point spatial et une saison d'été. Donc, alors il classifie les différents extrêmes en trois catégories. Donc, supérieur à 0,43 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Donc, en fait, si on regarde la classe la plus forte, donc les événements, les vagues de chaleur, enfin les saisons les plus extrêmes en chaque point de grille du globe. Et en chaque saison, on s'aperçoit qu'il y a il y a un passage de moins de 1% de la fréquence de la fréquence spatiale en fait à 10% environ. Donc aujourd'hui, en gros, en 2010 et dans la fin des années 2000, la Terre est couverte par environ 10% du temps. D'extrême, 10% de l'espace, pardon, d'extrême supérieur à 3 sigma. Donc, maintenant, il faut absolument se poser la question de savoir d'où viennent ces sources d'incertitude. Donc, on a vu un petit peu, on a vu un petit peu les différentes natures, mais aujourd'hui, sur quoi on peut agir? Eh bien, on peut agir sur l'incertitude structurelle, donc les sources physiques, comment mieux modéliser, etc. Alors là, je vais citer un exemple, mais dans le domaine des événements extrêmes, la diversité est de mise, puisque on peut parler de tempêtes, on peut parler d'inondations, on peut parler de vagues de chaleur ou de vagues de froid, et à chaque fois, on tombe sur des choses très très différentes et des processus très différents. Donc je vais parler d'un sujet que je connais peut-être un petit peu mieux, qui est celui des vagues de chaleur, et vous montrer comment, finalement, en plus de ces phénomènes d'extrême, on a des phénomènes physiques qui sous-tendent, qui font que on va rendre le système encore plus sensible, qui sont les rétroactions et les non-linéarités. Alors ça a été évoqué là aussi, sur les échanges terre-atmosphère. Et donc, on a bien sûr, donc je vais parler de ça, on a bien sûr en tête le phénomène de l'été 2003 qui était complètement hors statistique. Alors là, c'est sur une station suisse, mais ça se produit à beaucoup d'endroits aussi, et qui préfigure des températures qui pourraient être obtenues à la fin du siècle. Mais après, l'exercice a été reproduit avec de nombreux modèles, et comme vous allez le voir, la question, on se retrouve presque dans la situation de Laurent, où rien qu'avec un seul scénario, on peut avoir différentes périodes qui seraient les périodes où l'été 2003 serait un été moyen. Donc je vais en reparler. Alors, finalement, quels sont les processus qui vont amplifier ces questions d'incertitude au niveau des vagues de chaleur ? Eh bien, c'est la façon, hein, donc ça a été dit, donc donc je détaille un petit peu ce qui a été un petit peu annoncé par mes collègues. Donc c'est la façon dont finalement les modèles vont traiter la restitution des bilans d'eau et d'énergie, enfin la restitution des inputs d'énergie notamment, hein, on a ici, donc si on regarde le système atmosphère-terre, on a des échanges d'eau, donc par précipitation, évapotranspiration et ruissellement, donc qui ferment un bilan. Et puis de l'autre côté, au niveau énergétique, une source donc d'énergie qui est la source de rayonnement net par l'énergie solaire, et qui énergie solaire, shortwave et aussi grandes ondes, qui elle est restituée à l'atmosphère sous deux formes, de façon nette sous deux formes: évapotranspiration d'une part, flux de chaleur latente et flux de chaleur sensible. Et aujourd'hui, la façon dont les modèles, la façon dont les modèles répartissent ces deux restitutions a considérablement d'incertitudes. Alors en fait, cela est amplifié par un phénomène qui est amplificateur. Alors là, je dois m'arrêter un tout petit peu sur ce transparent-là, parce qu'il est assez important. En fait, lorsqu'on est dans une région où les sols ont suffisamment d'eau disponible pour que les plantes puissent transpirer, on n'a pas trop de phénomènes, je dirais, non linéaires. On reste dans un domaine où plus on met d'énergie dans le système, plus on évapotranspire. Or, lorsque la saison va commencer, si les conditions anticycloniques persistent, l'eau dans les sols va commencer à diminuer, puis atteindre un seuil au-delà duquel ce n'est plus l'énergie qui va limiter l'évapotranspiration, mais c'est l'humidité du sol elle-même. On parle du régime limité en humidité du sol. Et alors là, se produit un emballement des phénomènes qui fait que si on diminue l'humidité du sol un petit peu, on va induire une augmentation on va changer un petit peu l'équilibre entre les restitutions d'énergie dont on a parlé, avec un peu plus de flux de chaleur sensible, un peu moins de flux de chaleur latente dans ce régime limité par l'eau du sol. Et par conséquent, la température va augmenter un petit peu, l'humidité relative diminuer, et puis induire une demande évaporative plus forte qui va assécher davantage. Donc on a une rétroaction positive qui peut conduire à un emballement. Et c'est ce type de phénomène, donc Laurent en a parlé aussi, c'est vraiment ce type de phénomène qui crée... Alors il y a d'autres types de rétroactions, je ne vais pas les détailler, mais c'est ce type de phénomène qui peut créer des extrêmes comme des vagues de chaleur. Alors maintenant, si on regarde les modèles, là, c'est une expérience qui a été faite avec les modèles du projet Ensemble à l'échelle régionale sur l'Europe, qui a été conduite. Donc c'est une analyse simplement du cycle annuel, donc c'est vraiment très simple, du cycle annuel de l'évapotranspiration dans ces différents modèles. Alors tous les modèles sont au gris là, Et puis, alors, voilà, c'est là qu'il y a la clé. On n'a pas d'observation, ou très peu d'observation directe, en tout cas pas d'observation couverte spatialement et temporellement de ces flux de chaleur. Or, ce que l'on voit, c'est que les modèles diffèrent d'un facteur 2 en été. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Donc on a des réponses très très différentes selon les modèles. Et que, donc on a des réanalyses qui sont faites avec d'autres modèles qui assimilent des observations de nature un petit peu différente. Donc on a ERA intérim ici, ERA 40 ici. Donc aussi beaucoup de différence entre les deux réanalyses. Et puis un jeu d'observation qui a été fait à partir du réseau FluxNet qui est en certains points et qui a après subi un certain nombre de transformations dont j'aurais pas le temps de parler ici, mais qui permet une couverture plus globale du système et qui conduit à cette courbe noire qui est ici plutôt tirée par des observations directes mais spatialisés et représentés. La même chose pour les flux de chaleur sensibles. Là, il y a peut-être un petit peu moins d'écart entre les modèles, mais dans tous les cas, on sent bien que là, il y a quelque chose à faire si on veut améliorer les choses, en tout cas dans le domaine des vagues de chaleur. Alors, maintenant, je voudrais juste passer un moment, parce que sur les extrêmes et le changement climatique, il y a un ouvrage de référence aujourd'hui qui s'appelle le rapport de l'IPCC sur les événements extrêmes, le rapport spécial, STREX, voilà, et qui dit un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. Alors, je sais que le vocabulaire de l'IPCC, du GIEC, est assez codifié, donc avec des échelles de vraisemblance, voilà, avec des mots qui correspondent à des probabilités. Alors là, on est dans le domaine complètement... on n'est pas du tout dans le domaine quantitatif. Hein. C'est des jugements d'experts qui amènent à cela, mais qui sont quand même basés, par exemple, very likely, je crois que c'est 95... Hervé va peut-être me détromper si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est 95 à 100%. J'ai plus le chiffre en tête exact.
Je sais plus, c'est 95, oui.
Je sais plus, c'est 90 ou 95. Il me semble que c'est 95. On a Virtually Certain qui est 99 à 100%. On a Likely qui est 66%, en gros 2 tiers à 1, etc., etc. Donc il y a quand même, enfin ça a un sens quand même au niveau des jugements d'experts qui sont faits sur la base d'une revue de la bibliographie et qui tire un certain nombre d'éléments à la fois sur le passé, donc sur le climat passé, mais aussi sur le climat futur. Alors sur le climat passé, pour les distinguer, je l'ai mis en bleu. Au niveau de la température, sur les phénomènes extrêmes au niveau de la température, donc il est très très probable que dès aujourd'hui, on puisse détecter une augmentation dans les températures maximales extrêmes et une diminution dans les températures minimales extrêmes en fréquence. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est à peu près la seule chose dont on soit... qu'on puisse dire avec autant de vraisemblance. Par ailleurs, pour le futur, le même type de conclusion devrait être obtenu concernant les températures extrêmes, donc ce sont les maximums journaliers, mais aussi concernant les phénomènes de type vague de chaleur, qui sont des phénomènes en soi, qui peuvent être définis de façon objective par un dépassement d'un certain nombre... L'OMM donne 5 degrés pendant 5 jours ou 6 jours, je ne sais plus. Il y a aussi d'autres définitions. Mais donc à la fois la longueur, la fréquence et l'intensité de ces vagues de chaleur devraient croître, et ce n'est que very likely. Alors, bon, tout ça peut être représenté par un diagramme qui est un des diagrammes typiques de l'IPCC, où on essaye de représenter à la fois tous les scénarios, toutes les régions tous les temps. Donc chaque boîte concerne une région, par exemple l'Europe ici, avec trois scénarios différents, soit un scénario de développement, un scénario, alors je n'ai plus en tête, oui voilà, B1, A1, B ou A2, B1 en bleu, A1, B en vert ou A2 en rouge, pour la période du milieu du siècle ou pour la période de fin du siècle. Et ce qui est mesuré ici, ce qui est estimé ici, avec sa barre d'incertitude qui provient des modèles, hein, c'est le temps de retour, voilà, le temps de retour d'un événement qui aurait pour temps de retour 20 ans dans le climat des, je crois, 5 dernières décennies. Donc un événement qui aurait un temps de retour de 20 ans dans les dernières décennies voit typiquement sur l'Europe, donc là c'est sur les températures maximales, un temps de retour pour la fin du siècle qui varie entre, on va dire, à peu près 1 et 10 ans selon les différents scénarios. Donc ça donne une idée un petit peu de l'incertitude en matière d'extrême. Donc c'est un phénomène qui peut en moyenne se retrouver tous les ans ou tous les 10 ans à la fin du siècle, alors qu'il est de 20 ans aujourd'hui. Alors bon, on peut regarder toutes les régions, bien sûr, ça serait un petit peu long, mais c'est une décroissance des temps de retour qui est assez générale. Alors si on regarde un petit peu l'Europe, alors là on va en matière de vagues de chaleur, donc il y a un très très bon papier de Fischer & Scherer en 2010 qui détaille un petit peu ça. Il ne parle pas beaucoup d'incertitudes, mais il décrit un petit peu les différentes caractéristiques des vagues de chaleur et leur évolution. Concernant l'incertitude, ce que j'ai trouvé, c'est pas directement sur les événements extrêmes. Il s'agit plutôt de la variabilité elle-même, et elle résulte en fait de ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire des échanges entre le sol et l'atmosphère. Et ça représente 10 modèles dans une expérience spécifique, et l'expérience prudence, donc avec un seul modèle global qui est descendu en échelle par 10 autres modèles régionaux. Et on voit que, alors là, la variabilité elle-même vient en grande partie des modèles régionaux et des processus qui vont se produire dans les régions, puisque l'augmentation de l'écart-type de la variabilité interannuelle des températures peut passer de 125%, je crois ici, enfin peut passer pardon d'assez peu en Europe centrale à jusqu'à 125%, donc à peu près de 0 à 125% d'augmentation. Donc on a une réponse extrêmement variée en fonction des modèles et des représentations des processus. Alors concernant le cycle de l'eau, de ce côté-là, finalement, quand on regarde bien la littérature et dans le rapport actuel qui est en préparation, on voit aussi que on va certainement vers les mêmes conclusions, mais il y a une augmentation, ce qui est seulement likely, donc avec un petit peu moins de confiance, des événements de précipitation intense, mais il y a eu. Et que, par contre, dans les projections futures, on retrouve ce likely sur les événements de précipitation intense. Mais par contre, concernant les autres phénomènes, on a des réponses qui sont vraiment très contrastées et surtout qui n'ont pas l'assiette de confiance. À la fois entre les modèles mais aussi les scientifiques. Si on regarde par exemple, là je passe tout de suite à celle-là, si on regarde par exemple les réponses, alors là je crois que ça doit être l'humidité des sols, mais ça pourrait être vrai aussi sur les régions où on retrouve le plus de sécheresse en termes de précipitation, alors le moins de précipitation, pardon. La notion de sécheresse est une notion assez complexe qu'il faut détaillée à chaque fois, mais en termes de, ici, d'humidité des sols, on retrouve quelques régions sur, la, sur lesquelles la plupart des modèles sont d'accord pour une augmentation des, de la sécheresse, et la plupart des autres régions, il y a beaucoup de divergences entre, entre les modèles. Alors, je ne sais pas si, ça contre, si, si c'est en accord avec ce que montrait Hervé au début, mais en tous les cas, ce n'est pas exactement la même variable. Hein, donc, voilà. Par exemple, il y a eu sur les, bon, les événements sur les cornes est de l'Afrique, il y a quand même pas mal de divergences, même si il semble qu'il y ait une convergence pour une diminution, pour une augmentation des précipitations ici. Là, donc ça questionne sur l'attribution notamment des phénomènes qu'on voit. Alors, concernant les phénomènes liés au vent, donc on parle, en fait, il y a plein de choses qui sont intéressantes liées au vent. Il y a à la fois les tempêtes, mais aussi tout ce qui est tornades, etc., pour lesquels il y a très peu de résultats qui donnent des résultats avec une grande assiette de vraisemblance. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il semble que les changements dans les cyclones tropicaux recueillent très peu d'accords entre les différentes approches, alors que ce qui semble se détacher en termes de vraisemblance, c'est le décalage des trajectoires de tempête aujourd'hui vers le nord sur le climat passé. Sur l'intensité, il n'y a aucun résultat qui permet de dire avec une grande confiance que l'intensité des tempêtes est modifiée, ou la fréquence ou l'intensité des tempêtes est modifiée. Il n'y a pas de résultat. Il y a même un résultat qui tend à montrer que il y aurait pour les tempêtes extratropicales plutôt une réduction du nombre, mais avec medium confidence, donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions, une réduction peut-être des nombres de cyclones extratropicaux, donc des tempêtes qu'on a à nos latitudes, et aussi de la modification. Alors, vous voyez, ça c'est assez amusant, parce qu'on a une très légère incohérence entre les termes sur le passé et sur le futur, c'est-à-dire que donc sur le passé, on a un décalage probable des trajectoires de tempête vers le nord, et de façon assez intéressante. Alors, j'ai pas été creusé, hein, je vous avoue que là, je reporte un petit peu brutalement ce fait. Sur le futur, on est seulement dans la medium confidence. Donc, à creuser. D'autres phénomènes, bon, bien sûr, il y a les phénomènes liés aux extrêmes côtiers qui, eux, ont une probabilité assez forte de se poser avec l'élévation du niveau des mers, mais aussi les changements, alors là c'est plus sur des impacts un petit peu indirects, les changements liés aux vagues de chaleur, liés au retrait des glaciers, etc., pourraient produire des phénomènes comme des glissements de terrain, etc. Donc voilà ce qu'on... Moi, je vous invite évidemment à lire ce rapport qui est extrêmement intéressant et qui parle aussi beaucoup de vulnérabilité. La partie climat elle-même est relativement... occupe une partie qui est à peu près un tiers, je crois, un tiers ou un quart du rapport. Et donc, voilà. Donc les conclusions pour terminer. Dans le domaine des incertitudes, donc, on a à la fois des problèmes méthodologiques avec les extrêmes, même si aujourd'hui il y a des théories qui sont développées sur les valeurs extrêmes, mais les phénomènes extrêmes sont par définition extrêmement rares, et donc on a encore à travailler dans le domaine des méthodologies. On a très certainement à progresser sur les processus et les interactions, les phénomènes d'amplification, et ça ne peut être fait que grâce à des observations de long terme. Ça, c'est un message que je dis à chaque fois, hein. Si on n'a pas d'observation de long terme, on ne progressera pas. Donc c'est très important d'avoir ces observatoires, de les maintenir, et ensuite donc une meilleure... Alors voilà, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais il y a un sujet qui préoccupe un petit peu la communauté et au-delà, c'est la question des phénomènes de rupture aussi. Aujourd'hui, les modèles ne projettent pas de rupture majeure dans le système, mais est-ce qu'ils sont équipés pour la question est là, et la réponse est probablement non. Donc on a des phénomènes majeurs qui peuvent se produire, comme des changements dans à la fois la circulation thermohaline, les phénomènes liés au cycle du méthane notamment, avec le dégel des permafrosts, et très probablement nos modèles ne sont pas capables de bien simuler ces événements. Voilà, finalement, pour terminer, donc là on parle bien sûr de l'incertitude sur les variables climatiques, mais lorsqu'on va regarder l'impact, la vulnérabilité, etc., on peut aller très très loin dans ces méthodes-là, dans cette approche, aller donc regarder sur les impacts déjà. Là on a aussi le même type de problématique, mais une problématique qui est amusante, en termes scientifiques, je dirais, c'est aussi de regarder en matière d'extrême, finalement, l'évaluation et l'incertitude qu'on a sur l'évaluation des mesures d'adaptation. Donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, va se développer et qui pourrait, qui nécessite aussi une observation un petit peu sur le long terme des phénomènes. Mais par exemple, un exemple tout simple, c'est finalement, les vagues de chaleur et la mortalité. Voilà. Est-ce que avant 2003, on a la même relation entre les deux qu'après ? Donc il y a des choses, il y a des études en cours qui sont en train de se faire là-dessus, mais là aussi, on a des choses à faire, je crois, qui pourraient être tout à fait intéressantes. Je vais m'arrêter là.
C'est un commentaire, enfin un ou deux commentaires sur tout d'abord sur l'une des premières figures là, tirée du papier de Hawkins et Sutton. Tu as précisé, mais c'est très important, que ce que tu as montré, ça concerne la température globale.
Oui.
Il y a deux problèmes avec cette étude. La méthodologie utilisée, je pense, sous-estime grandement, alors pas pour la température globale, mais certainement pour les températures régionales, le rôle de la variabilité interne,
oui, il y a des
aux échelles de temps moyennes à longues, à mon avis. Et donc je pense que cette courbe, pas celle-là, mais celle sur les échelles régionales, en fait, est trompeuse. Donc je pense qu'il ne faut pas... Elle a été montrée, remontrée, surmontrée. À mon avis, elle est erronée.
Elle est très pédagogique.
Elle est pédagogique, mais elle est erronée. Donc dans ce cas-là, on peut se demander si elle est vraiment pédagogique. Donc, bon. Oui, parce qu'elle avait de belles couleurs et que voilà, et bon, ils sont très forts pour faire. Voilà. Mais en tout cas, quand on regarde la méthodologie, je parie que si on applique la même méthodologie à la nouvelle base de données CNIP5, le résultat sera différent parce qu'en fait, le nombre de membres par modèle est extrêmement réduit dans cet exercice-là. Et sans ça, on ne peut pas évidemment qualifier. Et la comparaison qu'on a fait avec Clara Désert de ces résultats avec le grand ensemble dont j'ai parlé indique que c'est extrêmement sous-estimé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et puis du coup, j'ai oublié le deuxième point.
Je vais peut-être revenir. Mais comment dire, je pense que ce que tu as montré prouve que, en fait, la part de la variabilité interne est probablement sous-estimée. Moi, je pense que c'est un sujet qui est à creuser parce que c'est vraiment assez nouveau ce que tu as montré. On devrait. Moi, je le découvre un peu. Hein, voilà.
Non, mais tu l'as montré aussi, mais peut-être sans le réaliser, mais quand tu montres les résultats du changement de variabilité dans les modèles régionaux ensemble,
oui.
Alors il y a à la fois de l'épistémique et de l'interne. Bon, on n'a pas l'expérience nécessaire pour dissimuler les deux, mais dans ce que tu montres, il y a les deux sources. Donc à partir de là, il y a les deux sources à l'échelle régionale, c'est-à-dire à petite échelle. L'arbitre interne à petite échelle, puisque la grande échelle est contrainte par le même modèle global.
Dans prudence. Oui. Alors malheureusement, je dirais les expériences régionales demandent des moyens de calcul énormes. Je pense que donc on va pas. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir répondre Parce que ça serait intéressant de distinguer la variabilité interne qui est liée au global et la variabilité interne qui est liée au processus d'amplification locale, etc. Et ça, pour ça, il faudrait faire ce que tu as fait, mais avec du régional seulement. Et là, bon, donc on a encore des choses à faire.
Voilà. Non, le deuxième point, c'est juste un commentaire sur la terminologie du GIEC que tu as mise en anglais, là, donc avec confidence, etc. Donc c'est en gros l'idée de confiance et de vraisemblance. En fait, c'est une discussion qui a eu lieu déjà il y a plusieurs années, qui était en gros comment est-ce qu'on peut sortir du problème de dire en gros, on est quasiment sûr que les modèles vont donner ça, mais on a une connaissance très très imparfaite des phénomènes qui régissent cette évolution. Et en gros, cette échelle-là, elle est là pour introduire une espèce de... En gros, c'est presque si on mélange à la fois du fréquentiste et du bayésien avec... Parce qu'en gros, on dit, le fréquentiste dit, bah, tous les modèles... Et c'est un petit peu le biais qu'on a quand on dit avec leur pointillé en disant la plupart des modèles donnent ça, comme si c'était nécessairement la vérité. Alors après, il y a donc cette confidence où on dit, bah, en fait, on connaît très peu les phénomènes qui régissent cette évolution. Donc, même si tous les modèles donnent cette évolution-là, on a des doutes parce qu'on connaît mal... Enfin, il y a un problème d'incertitude épistémique basique.
Alors effectivement, ce que j'ai pas dit parce que ça prendrait du temps, c'est qu'il y a une notice pour les auteurs du GIEC pour déterminer l'incertitude, enfin pour exprimer l'incertitude, qui est basée sur deux métriques. Hein. Tu dis, c'est l'evidence, donc la preuve, enfin la preuve par quel moyen qu'elle soit, que ce soit intellectuel par les équations ou par les observations. Et l'agreement, l'accord. Hein. Alors, je dois avouer que j'ai feuilleté pas mal le système. Je n'ai pas assisté aux épisodes précédents du GIEC, mais la notion d'accord reste encore un tout petit peu floue pour moi. Est-ce que c'est l'accord entre les modèles? Est-ce que c'est l'accord entre les experts, entre les papiers, entre les... Bon, je pense que la notion est quand même suffisamment floue pour permettre d'englober un petit peu tout. Mais de fait, comme tu dis, effectivement, elle est basée sur ces deux métriques. Et normalement, la vraisemblance est déterminée à partir de ces deux métriques comme une hybridation un petit peu de ces deux métriques. Peut-être qu'il y a l'air.
Je vais juste faire remarquer dans les premiers rapports du GIEC, par exemple les diagnostics sur les forçages énergétiques, il y avait toujours deux types de manifestations de l'incertitude, une qui était la dispersion des résultats publiés, et puis l'autre qui était le level of understanding. Oui. Justement, ce que tu te disais. Et je pense qu'on a plutôt perdu dans une espèce d'agrégation de tout ça dans un seul.
Oui,
parce qu'il y a une information en moins qu'une information importante, et en plus de ça, c'est vrai que quand on traduit ça en français ou en autre langue, c'est likely, very likely, c'est un objet de moquerie récurrent à chaque fois.
Et pire, virtually certain, ça c'est... Ouais, certain, on ne l'est pas.
Tu avais mis un point. J'ai pas vu après, il y a ces autres mains.
D'abord, je te remercie de cette présentation, parce que c'est vrai que les événements extrêmes, c'est un sujet en même temps encore plus compliqué que la température moyenne et la précipitation moyenne, et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je voulais revenir sur l'emballement que tu as présenté, où un sol sec va donner peu d'évaporation, une atmosphère plus sèche, et donc il va y avoir un emballement de ce processus. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Sonia
Sénéra,
que tu as cité en 2010 sur cet emballement, mais je tiens à te dire que cette notion-là est assez antérieure à 2010. Et depuis 1976, on a eu la vague, la sécheresse et l'impôt-sécheresse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de papiers qui parlaient de ça. Et je ne sais pas si Alain Perrier est dans la salle, c'est pour ça qu'on retournait pour voir. Mais Alain Perrier, attends, je termine, il te dit une chose. Il dit irriguez, 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 et dites que vous ne perdez pas de l'eau, et arrêtez de rendre coupables les agriculteurs, parce que quand vous irriguez plus, eh bien, vous avez plus d'eau. Bon, donc c'est une notion qui est intéressante. Moi, ce que je trouve aussi intéressant et sur lequel on devrait travailler et creuser dans les modèles, c'est pourquoi ces ruptures. Parce que 1976, tu as une sécheresse qui dure pendant tout l'été et qui se termine en octobre quand arrive la saison humide et les pluies automnales. 2011, tu as une sécheresse qui s'est arrêtée et, Dieu merci, les agriculteurs ont pu avoir des bonnes productions finalement. parce qu'il y a eu des pluies qui ont été plus tardives. Et donc, ce que je trouve, c'est que ce mécanisme existe, mais il y a aussi l'apport par la circulation de l'humidité. Et ce qui serait, je pense, vachement important pour les agriculteurs, c'est d'arriver à appréhender quand c'est un phénomène plutôt qu'un autre qui va dominer. Alors, bien sûr, on n'arrivera pas à dire cette année, dans 3 mois, il va y avoir ça. Mais si on pouvait sentir un peu plus les mécanismes et de circulation des anticyclones qui se mettent en place, etc., et de sol, et puis si on faisait dans tous les modèles, comme dans le modèle de l'IPSL, des efforts énormes sur les problèmes d'évapotranspiration, peut-être qu'on arrêterait de travailler sur deux demi-droites pour représenter l'évapotranspiration en situation sèche et humide. Merci.
Donc, réponse à la première question, oui, bien sûr, ce n'est pas un papier de découverte, le papier de Sonia, c'est un papier de revue.
Oui, mais donc, il est bien présent.
Voilà.
Pour reconnaître que les graphiques sont jolis.
Bon, donc il est très pédagogique et oui. Il permet, effectivement, il rapporte tous les travaux qui ont été faits dans ce domaine qui ne sont pas nouveaux du tout, dont les tiens. Ensuite, le second point que tu décris, c'est le phénomène de la relation entre la circulation atmosphérique et les effets locaux, finalement, les feedbacks, les rétroactions locales. Alors, c'est vrai que c'est important. Hein, c'est pas le seul phénomène, la rétroaction entre le sol. C'est pas seulement ça qui va déterminer si on va avoir des vagues de chaleur ou non. La circulation atmosphérique, qui malheureusement n'est pas prévisible à l'échelle de... ou peu prévisible à l'échelle de... d'une saison à l'avance, donc par des mécanismes de dépendance aux conditions initiales, peut tout à fait modifier, comme ça on l'a vu en 2011. Hein. En 2011, on avait un record de sécheresse, en France en tout cas, jusqu'au 1er juin, et au 1er juin, on a eu des phénomènes de convection extrêmement importants qui ont duré pendant suffisamment de temps pour annihiler tous ces effets. Donc, on est dans le domaine exploratoire, il y a aussi des études qui montrent que si, dans certaines régions, si on commence les flux de chaleur sensibles trop fort au début, on va déclencher plus de convection. Et on peut justement annihiler, c'est-à-dire que voilà. Donc il y a des choses extrêmement complexes à débobiner de tout ça. Il y a aussi des études qui montrent que l'état du sol a un impact sur la circulation elle-même, hein, donc induit elle-même des situations anticycloniques en altitude, conduisant à l'amplification de ces sécheresses. Donc tout ça est encore dans le domaine de la recherche.
Alors, une dernière question, bref, si possible.
Bien sûr. Le problème, c'est que les scientifiques ont un petit peu abondamment rebondi sur le débat, et j'aimerais apporter... Donc, je suis Pascal Maugis, hein, à l'ONEMA, mais c'est vrai que il y a 3 ans, j'étais encore scientifique au LSE. J'aimerais revenir un petit peu sur le point de vue opérationnel pour la décision sur l'adaptation, puisque tu as le mandat. Et vous dire que je suis un peu resté sur ma faim dans cette session, alors qui présente les impacts, hein, qui sont déclinés sur les différentes catégories de modèles. Bon, ça a été évoqué, donc là je félicite effectivement cette évolution dans le discours des scientifiques sur les incertitudes. Ça a été évoqué, les incertitudes qui ne sont pas liées uniquement à la robustesse des modèles ou aux variabilités internes qui ont été décrites, la stochastique, etc. Il y a effectivement une incertitude épistémique qui a été qualifiée comme ça. Qui est évoqué, donc tu as parlé du permafrost, tu as parlé de la circulation thermohaline, il y en a d'autres, il y a aussi les instabilités de la végétation, il y a aussi les épidémies humaines, végétales en particulier, hein, des rétroactions très fortes vis-à-vis du couvert végétal et de l'état du sol, c'est des choses qui sont mal comprises, qui sont pour l'essentiel pas modélisées et qui sont source de ruptures qui peuvent être absolument catastrophiques. Donc le besoin qui est derrière, c'est d'avoir une meilleure lecture quantitative de cette incertitude, donc épistémique, sur ce qui n'est pas dans les modèles du tout, ou ce qui est mal modélisé. Hein, certains modèles le font, d'autres ne le font pas, plus ou moins bien, etc. Et là, au niveau de la communication sur l'incertitude, justement, cette partie-là, on n'arrive pas à en voir le poids. Et d'un point de vue des décisions, il y a une prise de conscience croissante sur le fait que les modèles climatiques, les travaux du GIEC ne donnent pas des résultats qui sont suffisamment fiables pour la prise de décision. C'est dit très explicitement, hein, et de façon croissante, peut-être moins en France, mais en tout cas c'est déjà dit très explicitement au niveau international. Et donc du coup, comment est-ce que le GIEC et les scientifiques vont se positionner pour l'adaptation? On a besoin de l'ensemble de l'incertitude et donc de relativiser ce qui est dit à travers tous ces travaux-là. Là, donc ça n'apparaît pas suffisamment aujourd'hui, c'est effleuré, je trouve qu'il faut insister, donc voilà, je le fais. Et je voudrais aussi dire qu'il y a un point de vue qui est parfois défendu par des scientifiques, je pense que ça va être absolument étayé par les sciences humaines et sociales et les sciences politiques, qui est que la décision est plus facile à prendre lorsque on présente une synthèse des résultats synthétiques. C'est encore dit par Hervé Le Treut dans un très intéressant livre, hein, Le GIEC à l'extérieur. La décision est plus facile lorsqu'on présente une sorte de consensus scientifique. Moi, je dis que non. Qu'à court terme, c'est peut-être profitable, mais que la réalité qui apparaît à travers les travaux scientifiques, c'est que les résultats changent tout le temps, que d'un exercice à l'autre, on a des tendances qui sont différentes, des incertitudes qui sont peut-être mieux connues, qui ne vont d'ailleurs qui augmentent, qui vont qu'augmenter. Donc, au fil du temps, faire une synthèse et ne pas donner tous les éléments indispensables à la décision, je pense que c'est contre-productif. Donc, moi, je plaide plutôt pour une présentation, disons, exhaustive, mais en tout cas plus explicite des incertitudes de la démarche, et pour une éducation de la population et des personnes qui sont impliquées dans l'adaptation. Voilà, sinon, on va devoir opter pour d'autres stratégies qui vont s'écarter résolument de ce que fournit le GIEC. On va se trouver dans une sorte d'impasse où on ne pourra pas invoquer l'expertise scientifique parce qu'elle aura pris une forme qui sera un peu figée. Donc, pour pouvoir mettre en place ces politiques d'adaptation avec l'implication qu'il faut de la population et décisionnaire, il faut, je pense, une optique d'éducation qui soit plus modeste et qui soit vraiment une co-construction. Voilà, je vous remercie.
Alors, un point qui ne s'adresse pas uniquement à Robert et à l'ensemble. Je propose que ça fait partie des choses qu'on peut reprendre dans la discussion en fin d'après-midi. Demain également, on ne sait plus, au moins cet après-midi, en fin d'après-midi, dans la discussion.